Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau d'Europe Soir avec la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, avec le directeur général de l'opinion chez IFOP, Frédéric Dabi, avec Alexandre Devecchio du Figaro et le président du Printemps Républicain, Amine El Khatibi. Dans la série Les candidats à la présidentielle, et si c'était Barnier? Vous l'entendez, cette petite musique? Depuis quelques jours, à droite, les électeurs, selon les sondages de M. Dabi, nous donnent le résultat du tiercé. Bertrand, Pécresse et Barnier dans l'ordre. Barnier troisième, Barnier médaille de bronze. Mais Barnier, lui, les sondages, il s'en fout, ou du moins, il est prudent.
Je veux rappeler que ce ne sont pas les sondages qui font le président de la République. Jamais dans l'histoire des 30 dernières années, les sondages réalisés 5 ou 6 mois avant n'ont donné le résultat final.
Et vous aurez placé en tête, m'auriez dit l'inverse ce dimanche.
Non, je vous aurais dit avec beaucoup de prudence, faites attention aux sondages, comme d'ailleurs aux rumeurs, ou à l'idée que je serais le favori, je fais très attention.
Mais que répondez-vous à un militant qui vous regarde et qui se dit, Monsieur Barnier est placé à 8%, Xavier Bertrand est au-dessus et en plus en capacité peut-être d'être au second tour face à Emmanuel Macron.
Je vous dis que je me présente tel que je suis, quelqu'un qui est dans cette famille depuis toujours, qui présente ses convictions et ses idées et son projet, et je fais confiance aux militants.
Voilà, vous voilà rhabillé pour l'hiver, mon cher Frédéric Dabi.
Je partage complètement et largement ce qu'a dit Michel Barnier. C'est vrai qu'il grande prudence sur les sondages faits 6 mois avant le vote, en octobre 2016. Nous testions François Hollande, Manuel Valls, François Bayrou. Je nuancerai quand même son propos sur deux points. Lorsqu'il dit que jamais les sondages 6 mois avant ont donné le vainqueur, en septembre 87, François Mitterrand était très devant au premier tour, au second tour. Je ne crois pas qu'à la rentrée 2006, Nicolas Sarkozy était en situation d'être battu au premier comme au second tour. Mais c'est vrai que la prudence s'impose. Et là où il a complètement raison, c'est qu'il peut faire fi, si je puis dire, des sondages, c'est que le scrutin du 4 décembre n'est pas le scrutin des sympathisants de droite, du peuple de droite, mais un scrutin interne, un scrutin d'adhérents des Républicains. Et donc, je vais vous dire, personne ne peut dire de manière péremptoire, mais peut-être que quelqu'un va se risquer ici de dire Barnier va gagner, Bertrand va gagner, Pécresse va gagner. Des sondages auraient peut-être une influence quand on verra que tel ou tel, pour l'instant c'est Xavier Bertrand qui fait le score le plus élevé, qui est en situation d'être au second tour, mais là, c'est un vote interne des adhérents. Même si, depuis que le Congrès a été choisi le 26 septembre, si je ne me trompe pas, on a eu une assez forte montée du nombre d'adhésions chez LR. On est passé de 78 à 88. Ouais. Peut-être va-t-on dépasser 100, 120 000, comme pour la primaire d'Europe Écologie et Verts. Mais ce scrutin interne, un peu comme la primaire ouverte d'Europe Écologie et Verts, c'est la bouteille à l'encre.
Les primaires, de manière générale, effectivement, la base électorale n'est pas la même que la base d'un véritable vote. Mais là, en plus, c'est un congrès, donc c'est encore plus fermé. Ça va jouer peut-être entre 70 000 militants. Donc généralement, celui qui gagne, c'est celui qui tient l'appareil et qui est capable de faire voter ses troupes. Or, il semblerait que que Laurent Wauquiez ait plus ou moins choisi Michel Barnier. Je ne sais pas si c'est par conviction politique ou par volonté de détruire son propre parti. Donc je crois que Michel Barnier a bien raison de se moquer des sondages. Ils n'ont aucune espèce d'importance dans cette élection.
Et pourquoi vous dites possible pour détruire son propre parti?
Parce que je pense que Laurent Wauquiez a des ambitions, il a des revanches à prendre. Il est vrai que ses collègues l'ont diabolisé pendant des années pour reprendre aujourd'hui sa ligne politique. Donc je comprends
d'adouber Michel Barnier, il détruirait son propre parti.
Parce que moi je pense, et là j'en viens à la deuxième partie de mon raisonnement, c'est que Michel Barnier effectivement n'a aucune chance de gagner la présidentielle, je pense que...
Mais pour quelle raison?
Parce que je pense qu'il n'est pas... D'une part parce qu'il a trahi toute sa vie politique en 15 jours et que les électeurs ne sont pas des idiots.
Dis donc, vous allez... c'est vous qui avez sorti le carton.
Okay.
Alexandre, qu'est-ce qui vous prend?
Un peu de temps, s'il vous plaît. On est quand même dans une période
vous avez
où...
Couru le marathon,
on est dans une période où on a un phénomène Zemmour et un phénomène qui est lié au fait, je pense... qu'il y a un épuisement des partis traditionnels, que les gens ne jugent plus crédibles, finalement, les acteurs politiques qu'on a vus depuis très longtemps. Et donc, le fait que Michel Barnier...
On ne l'a pas vu depuis très longtemps. Il a occupé des postes ministériels et des postes
depuis,
de
depuis
députés.
40 ans. Depuis 15 jours, j'exagère, depuis un mois, il est sur un programme politique et à l'inverse des postes ministériels et de ce qu'il a fait pendant 40 ans. Donc, vous pouvez... Pour moi, c'est
d'accord, pas d'accord,
c'est
les autres
possible. difficile. Et je vous dis que si Michel Barnier, ce qui est fort possible, est désigné par la droite, il sera là, le Benoît Hamon de la droite. D'ailleurs, moi, c'est ma thèse, c'est qu'on est dans une période de décomposition-recomposition, qu'on a eu le droit à la décomposition de la gauche la dernière fois, et notamment du Parti Socialiste, et que là, on va tout droit, à mon sens, je peux me tromper, vers une décomposition totale des LR.
Le seul petit bémol, je partage ce qui vient d'être dit, le seul petit bémol, c'est que peut-être, moi je ne connais pas très bien forcément les adhérents LR et l'appareil de l'intérieur, mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'ils ont envie de gagner ou du moins de peser, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils ont le sentiment, beaucoup d'entre eux ont le sentiment que la dernière élection leur a été volée, parce qu'ils étaient persuadés que Fillon allait l'emporter, que c'était leur revanche sur François Hollande et les socialistes. Et là, badaboum, ça se passe pas comme ça. Et donc, opposition pendant 10 ans.
Prisca.
Et peut-être que dans la dernière ligne droite, je parle sous le contrôle de Frédéric, peut-être, même si effectivement, on le voit dans les primaires, on le voit dans les congrès, les électorats qui votent ne correspondent pas toujours aux électorats, sont souvent plus radicaux, plus ceci, plus cela, que les électorats traditionnels.
Monsieur le contrôleur. Oui.
Non, le contrôleur va dire que je partage ce qu'Aminel Katmi vient de dire. Il y a une logique de fidélité. C'est vrai que Michel Barnier, s'il a été fidèle à la vieille maison, pour reprendre un terme socialiste, il n'est pas parti comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, même si les départs de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse étaient, si je puis dire, motivés politiquement. Le c'était le fait de déplorer le fait qu'LR ne choisisse pas entre les deux tours, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a cette logique de fidélité, mais l'adhérent de droite, comme le sympathisant de droite, veut gagner. Il ne veut pas vivre sa troisième défaite de suite à l'élection présidentielle. Peut-être, comme le dit Alexandre, son deuxième 21 avril. Donc, dans ce cadre-là, nonobstant une image de Xavier Bertrand qui est parti, qui est revenu, qui pourrait être un petit peu écorné, mais ce que nous dit le terrain n'est pas la réalité des 70 000, des 80 000 militants. Ils voudront peut-être prendre celui qui a le plus de chances de l'emporter. Et aujourd'hui, ici et maintenant, c'est plutôt Xavier Bertrand.
Je vais faire la Normande.
Ce sont des hypothèses.
Ou la macroniste.
Non, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est pas en même temps là que je vais faire. C'est qu'en fait, oui, il y a une volonté évidente, et on va pas se mentir, pour la droite de prendre sa revanche, de se dire on va pas encore attendre et traverser le tunnel pendant 5 ans de plus. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est plutôt l'état-major. Parce qu'il y a 2 semaines maintenant, j'étais à Chambéry, donc sur les terres de Michel Barnier. Et il y avait une grande réunion faite de la majorité présidentielle, où bien évidemment, il ne s'agissait pas de la droite, mais de la Majo. Et en fait, on s'est rendu compte, à la fin de cette petite séance de réunion qui a duré 2 heures, que pas mal d'anciens militants de Michel Barnier étaient dans la salle. Non pas pour écouter et pour se dire « Ah, on va dire ce qu'ils ont dit et elle est rapportée chez nous », mais parce qu'en fait, ils veulent gagner, mais pas au détriment de leurs valeurs, pas au détriment de leurs premiers engagements. Et Michel Barnier réunissait énormément sur le principe, et là je vais le rejoindre Alexandre, sur le principe de l'Europe, sur la force de l'Europe. Et Michel Barnier a fait extrêmement peur, extrêmement mal à son électorat, en allant, dès sa première prise de parole, dès son entrée en matière dans la pré-campagne, en venant sacrifier sur l'autel de la campagne l'Europe. Et ça, ils ont extrêmement peur. Ils ne l'en veulent pas spécialement, mais ils ont peur en se disant à quel moment un homme qui peut se dédire alors qu'il représente quand même quelqu'un de droit, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui ne lâchera pas ses engagements. Et puis, bah, bim, d'un coup, on a peur parce que la vague Zemmour est là. Donc moi, je pense vraiment que oui, l'état-major est conscient de ça. Est-ce que ça voudra dire qu'ils arriveront à se mettre d'accord? Est-ce que la famille de Madame Pécresse et la famille d'Amélie Bertrand arriveront à se mettre derrière Michel Barnier? On n'en sait rien. Ça, c'est quand même faire de la politique fiction. Mais est-ce que les militants, eux, sont prêts à tout pour gagner absolument au détriment de leurs engagements premiers? Je ne suis pas complètement sûr de ça.
Et puis moi, l'hypothèse est séduisante, et c'est une hypothèse qu'il faut retenir, que finalement les militants fassent le choix de la raison, et puis aussi parce que Xavier Bertrand, ils ont tous les droits le même programme aujourd'hui, et que pourquoi pas Xavier Bertrand qui a le plus de chances de gagner, mais aujourd'hui, où est la droite? C'est la question, et on sait qu'il y a une porosité, et qu'il y avait une porosité entre une partie des militants de LR et du RN, et peut-être encore plus avec la figure d'Éric Zemmour. Donc dans ce contexte, on peut aussi imaginer qu'il y ait une certaine partie des militants qui est à la pêche et qui se disent « Nous, finalement, on mise sur Éric Zemmour pour gagner et qu'il ne reste plus que les gens qui vraiment suivent les appareils et les consignes de vote et qui, là, votent pour Michel Barnier. » C'est aussi une possibilité. On verra. Hein, les deux scénarios sont ouverts.
Alors, c'est vrai que la participation, le 4 décembre, sera absolument fondamentale. Traditionnellement, un militant avant que le système des primaires lui enlève ce pouvoir. Lorsqu'on interrogeait dans les années 90 des militants, c'était on adhérait pour devenir élu un jour et pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Il y aura quand même une campagne, même si c'est une campagne interne. Il y aura des débats télévisés sans doute. Je pense qu'il y aura un intérêt qui sera fort. Maintenant, c'est vrai que où se trouve la droite, elle est partout et elle est nulle part. Elle est chez Emmanuel Macron dans notre baromètre IFOP-JDD du jour. Il a 45% de satisfait chez les électeurs de François Fillon en 2017. Hein, 45% ou 47%, j'ai plus le chiffre en tête. Elle est chez Xavier Bertrand dans notre enquête d'il y a quelques jours. Xavier Bertrand fait le plein dans les segments traditionnels de droite, personnes âgées, artisans. Elle est chez Éric Zemmour, qui arrive à avoir un électorat de droite populaire et un électorat âgé. Et elle est également un peu chez Marine Le Pen. Donc c'est vrai qu'il y a cette conquête, il y a cette bataille pour pouvoir séduire les différents segments du peuple de droite. Mais je le répète, l'élection du 4 décembre n'aura rien à voir avec ça. La question qui se pose dans nos débats, c'est quid de la porosité entre le contexte pré-présidentiel et cette élection interne.
Bah ça, pour le coup, c'est difficile à prédire.
Ah bah, c'est pour ça qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas.
Et alors, bah oui, bah on va arrêter.
On ne peut pas des hypothèses.
Mais alors, il y a quelque chose, j'ai l'impression, à vous entendre, et notamment Alexandre Devecchio, il y a quelque chose qui ne passe pas au-delà du fait qu'il a, comme vous l'avez dit, en tout cas ce sont vos propos, de renier une partie de son programme jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui ne passe pas chez... Alors, on l'a présenté comme l'incarnation de Joe Biden à la française, qui est quand même assez drôle, parce que je pense qu'il est aux antipodes de ce que pense Joe Biden. Et puis alors là, on le présente quand même comme quelqu'un d'assez conservateur. Alors, c'est quoi le portrait robot de Michel Barnier?
Non, c'est pas du tout un conservateur, c'est plutôt un libéral, européiste. En tout cas, ça a été toute sa carrière politique, a été celle-ci. Et c'est pour ça que je pense qu'il va perdre sur les deux tableaux.
On peut être libéral et conservateur.
Oui, mais il était plutôt libéral. Si je veux dire. Non, il était modérément conservateur. Voilà. Il était pour la sécurité, on va dire, mais sans être sans être l'un des plus sécuritaires du parti.
Il se méfiait de
la question de l'identité. En fait, pour le dire simplement, il aurait pu être un très bon Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je crois d'ailleurs que ça a été envisagé. Donc je pense qu'il risque de perdre sur les deux tableaux.
C'est-à-dire que les
électeurs centristes, qui ne sont pas majoritaires au sein des LR, hein, les électeurs centristes ne voteront pas pour lui. Et les autres qui ne sont pas centristes, je pense, ne se laisseront pas avoir. Mais peut-être que je me trompe, ou alors ils respecteront les consignes d'Apparel par le soudain changement de pied de Michel Barnier.
Michel Barnier, qui ce matin en fin d'émission a été très très critique avec le quinquennat Macron. Vous avez entendu Prisca Thévenot ?
Oui, il est très critique et puis quelque part il est dans son rôle. Il est en train de rentrer dans une primaire de droite, il est en train d'essayer de convaincre qu'il peut être le plus fort, le plus à même de combattre Emmanuel Macron, et quelque part j'ai envie de dire... grand bien. Allons sur les sujets de fond et débattons sur ça. Mais encore une fois, moi ce que je dis, c'est qu'il y a le Michel Barnier d'aujourd'hui et le Michel Barnier d'hier. Et celui d'hier, oui, je pense qu'il aurait fait un excellent candidat de droite. Et je le dis de la manière la plus simple du monde, c'est que j'espère qu'on pourra être sur un débat de fond dans les semaines à venir, dès l'instant où le 4 décembre, enfin la droite se sera réunie et que je l'espère, la gauche finira. Enfin bon, avec ce qu'on vient de dire avant, on va oublier la France
sur la
gauche.
Et on aura peut-être un candidat de La République En Marche.
Ben on l'a, le candidat pour la
France.
En tout cas,
suspense.
Arrêtons deux secondes. Nous faisons. L'attente, vous l'attendez.
C'est terrible.
Ah, oui, non, ça se voit.
C'est pas hasard si La République En Marche trouve que Michel Barnier aurait été un excellent candidat de droite, parce qu'en fait, il aurait pu très bien rejoindre La République En Marche. C'est la droite proche de La République En Marche, en fait, Michel Barnier.
L'ancien Michel Barnier, tout à fait. Mais c'est encore ça, c'est que l'ancien Michel Barnier, j'ai envie de dire, oui, c'est très compliqué de dire.
Non, mais on a l'impression que c'est Fantomas, là, qui va enlever son.
Honnêtement,
conscience d'un avant ou d'un après Michel Barnier.
C'est un vote de militants, ils le connaissent un peu.
Oui, voilà, les militants, oui, mais c'est vrai que l'ensemble des Français, entre Valérie Pécresse, Bertrand Allu, c'est celui qui a le plus d'opinions. Je ne le connais pas vraiment. Donc, il y a une image en construction encore chez eux.
Oui, simplement, lorsque vous avez dit, il critique Macron, il faut se méfier.
J'ai pas dit qu'il fallait se méfier. J'ai dit qu'il
critique. Non, mais il faut se méfier des gens qui critiquent, qui peuvent changer d'avis assez rapidement. Il faut se souvenir que Bruno Le Maire, en pleine présidentielle, on est en février 2017, dit dans une matinale, mais Monsieur Macron est sympathique, mais il a pas de programme et il ne propose rien. Et il a fini à Bercy 3 mois plus tard. Et on peut retrouver aussi des citations d'Édouard Philippe pendant la campagne, qui n'était pas forcément très très délicate à l'égard d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il est dans son rôle, il est candidat primaire dans une formation d'opposition auprès de militants où, ce n'est pas une surprise, Emmanuel Macron est assez détesté par des militants de droite qui d'ailleurs, ils mènent la politique qu'ils auraient menée eux, en réalité, s'ils étaient au pouvoir sur tout un tas de sujets. Sur tout un tas de sujets, mais lui, sa personnalité cristallise beaucoup de violence. Donc Barnier dans son rôle.
Et vous parliez de Bruno Le Maire, bah ça tombe bien parce qu'il sera l'invité de Sonia Mabrouk demain matin.
Vous voyez la transition.
8h15, bah non, mais on l'a travaillé, on l'a bien répété. Sonia Mabrouk demain avec Bruno Le Maire à 8h15. Une pause dans ces débats d'Europe Soir, on revient juste après, tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau d'Europe Soir avec Prisca Thévenot, Frédéric Dabi, Alexandre Devecchio et Amine El-Khatmi. La semaine dernière se posait à l'occasion de ce qu'on a appelé un peu rapidement d'ailleurs le Polexit, la question de la primauté du droit européen sur le droit national, l'exemple de la Pologne qui au départ avait jugé des textes nationaux récemment adoptés incompatibles avec les traités européens, finit par dire du bout des lèvres que finalement ils étaient en effet en phase. Michel Barnier l'a redit ce matin, les États membres de l'Union européenne qui veulent remettre des principes fondamentaux de l'Union n'ont pas leur place dans l'Union en l'occurrence. En revanche, l'idée d'une Europe forte est pour lui indispensable pour rester à la table des négociations internationales.
C'est souvent l'extrême droite, aux Pays-Bas, en Italie, en France, au Royaume-Uni, qui a sollicité ou qui a demandé la sortie de l'Union européenne. Et donc la question sera posée aux élections présidentielles. Est-ce qu'on veut que notre pays garde sa place, qui doit être une des toutes premières dans l'Union, ou choisit la solitude? Mais je vous répète que si on est seul dans le monde qui vient, et qu'il faut regarder lucidement, sur certains sujets, sur beaucoup de sujets, on est foutu. Voilà ce que je pense. On devient sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains.
Est-ce qu'il a raison de dire ça, Michel Barnier ?
Alors, pour revenir à la conversation de tout à l'heure, parce que c'est intéressant, on parlait du Michel Barnier fantomas qui était passé de l'européisme à l'anti-européisme. Là, on voit que chasser le naturel, il revient au galop. Si j'ose dire, on retrouve le Michel Barnier qu'on connaît et qui nous explique des choses où il a factuellement tort, je dirais, sur certains points. C'est qu'effectivement, il fut un temps où l'extrême droite ou le Rassemblement national réclamait la sortie de l'Europe.
Là, il parlait des extrêmes droites des différents pays, notamment
des Pays-Bas.
Oui,
mais plus personne dans les différents pays, y compris la Pologne. Hein, c'était quand même une analyse qui allait un peu vite. La Pologne n'a jamais demandé de Polexit. Simplement, elle refusait d'appliquer certaines interprétations de certains traités, mais ce qui est le cas de la Cour de Karlsruhe, on l'avait dit la semaine dernière avec l'Allemagne. Donc là, il a factuellement tort, puisque il est dans un débat manichéen en prétendant que ses opposants, ou les opposants de droite plutôt souverainistes, qui veulent une autre vision de l'Europe, voudraient sortir de l'Europe. Or, plus personne n'est sur cette thèse-là aujourd'hui. Donc c'est de la rhétorique de campagne pour faire peur, pour dire attention, ils vont sortir de l'Europe. Après, on peut vouloir rester dans l'Europe et vouloir une Europe moins juridique, justement plus politique, et qui passe pas par des mesures technocratiques, par du droit, par le marché, mais qui passe par plus de coopération intergouvernementale pour peser sur certains projets face justement à la Chine ou aux États-Unis.
Amine et puis, il y a un enjeu de souveraineté politique auprès des peuples, c'est-à-dire de citoyens, que ce soit français ou dans les autres pays de l'Union européenne, qui votent pour des gouvernements qui ont, à l'issue d'élections démocratiques, qui ont présenté des programmes dont on peut discuter, mais à la fin, on se choisit des gouvernants et on entend sur tout un tas de sujets, bah, désolé, nous, on n'a plus notre mot à dire, et c'est en fait des gens pour lesquels, pour le coup, on n'a pas voté, qui sont extrêmement éloignés, que la plupart des citoyens ne connaissent même pas, qui édictent des règles qui sont au-dessus de règles nationales qui, pour le coup, là, sont votées par des législateurs qui sont élus par les citoyens. Et donc, ça pose un problème de légitimité démocratique de des décisions européennes et de dilution de la souveraineté des États qui face à, avec des gouvernements qui finalement sont dépossédés sur tout un tas de sujets. Et donc c'est là qu'il y a effectivement une ligne de crête à trouver entre une sortie de l'Union européenne que personne, je crois aujourd'hui, personne de sérieux, même ceux qui l'a proposé il y a 10 ans sont revenus dessus, et en même temps un renforcement de la légitimité de la souveraineté politique des États.
Oui, alors, le raisonnement que vient de tenir Amine El-Khatmi, c'est complètement celui que nous font les Français dans nos enquêtes faites qualitatives. Hein. Le moteur de la France du non, qui est encore très majoritaire en France, qui a même encore progressé depuis le 29 mai 2005, c'est ça, c'est la dépossession, c'est l'impuissance des politiques. Maintenant, il y a une image de la France en grand à travers l'Europe qui peut être mobilisée, mais l'actualité récente n'a pas apporté beaucoup d'eau au moulin à cette image. Il y a l'isolement de la France dans les affaires du Mali, où elle attend toujours l'aide de l'Union européenne qui n'est pas très forte. Et puis, il y a eu cette affaire. Tellement, on en a parlé ensemble il y a quelques semaines, qui a tellement fait peser sur cette image qui structure cette pré-campagne d'une France qui tombe, d'une France qui est en déclin, qui est même partagée par les jeunes. Hein. Dans l'enquête de 1999, on avait 3/4 des jeunes de moins de 30 ans qui considéraient que la France est une grande puissance. Ils ne sont plus que 51%, 25 points de moins en 20 ans. Il s'est passé quelque chose. Maintenant, c'est vrai que par rapport à d'autres campagnes présidentielles où l'Europe est souvent complètement absente, un petit peu en 88 parce qu'il y avait l'acte unique, c'était un des leviers de campagne de Jacques Chirac comme de François Mitterrand. Maintenant, la campagne va se faire avec un président Macron, un candidat Macron qui sera président de l'Union européenne. Et peut-être que pour une fois, cette question européenne va être plus en centre. Mais c'est vrai que la question de la souveraineté, de la dépossession du choix des citoyens français ou d'autres pays par rapport à des directives européennes par un personnel qui n'est pas élu ni connu est un vrai problème d'adhésion au mécanisme européen.
Madame Thévenot.
Alors, je suis pas complètement d'accord sur le principe du « c'est la première fois que l'Europe sera vraiment au cœur de la campagne des présidentielles ». En 2017, la plupart des gens qui ont rejoint Emmanuel Macron étaient sur le socle européen.
On n'en parlait pas pendant la campagne.
On en parlait, nous, beaucoup. Ça faisait partie...
Pardon, dans les motivations de vote, c'est pour ça que je me suis permis de dire ça, ça a été un des leviers les moins utilisés pour pouvoir voter, même si Emmanuel Macron était au-dessus des autres sur cette dimension-là.
Oui, on était les premiers, c'est exactement ça. C'est que de manière générale, ça n'a pas infusé à fond dans l'opinion publique. Mais de manière générale, nous avons mis en place ce sujet-là. Souvenez-vous, on était quand même les premiers à parler dans les grands meetings nationaux de campagne présidentielle, à parler d'Europe et à l'afficher ouvertement. Donc je pense que ça a permis d'avancer sur le sujet européen et la question européenne. Et effectivement, ça va être d'autant plus fort cette fois-ci dans les faits, puisque nous prenions la présidence de l'Union européenne. Je parle de nous,
oui,
c'est
la
France. Oui,
mais alors ça, on en fait tout un fuss qu'on va prendre la présidence de l'Union européenne.
Eh bien oui, mais justement, c'est extrêmement
important. D'abord, on la prend pour 6 mois.
Oui, mais
au milieu, on a l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on va avoir.
Oui, mais justement, cette présidence.
Deux présidents pour
cette présidence.
On va avoir 3 mois plus 3 mois, et puis j'ai l'impression qu'on va vite l'oublier, cette présidence de l'Union.
Eh bien, c'est à nous de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Cette présidence, effectivement, elle va être de 6 mois, mais elle se prépare maintenant. Elle se prépare depuis un certain nombre de mois, avec Clément Beaune, avec l'ensemble du gouvernement, mais également avec les délégations, typiquement sur le sujet de la défense. Mmh. Ça va être un des objets de la présidence de l'Union, de la présidence de la France sur l'Union européenne. Ça va être aussi l'enjeu diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on doit regarder de façon très lucide l'Union européenne, parce qu'elle il lui manque des compétences. On lui demande d'agir sur un certain nombre de champs sur lesquels elle n'a pas aujourd'hui les compétences d'agir et le pouvoir d'agir. Donc, effectivement, les 6 mois, ça peut paraître court, et vous avez raison, mais s'il se prépare en amont et si on solidifie justement la personne qui va continuer à prendre cette présidence, ça reste important.
Le dossier numéro 1 sur la pile, c'est l'Europe de la défense ?
Je ne sais pas si c'est le sujet numéro 1, mais ça fait partie. Effectivement, le président de la République a réuni l'ensemble des députés Renew, donc la délégation de la majorité présidentielle à l'Europe, en début de cette rentrée scolaire, si je puis dire, en septembre, sur le sujet de la défense, pour préparer ce sujet et être effectivement d'attaque pour l'aborder pour la présidence française.
Je pense qu'il y a la dette qui n'est pas loin non plus.
Dette, bien évidemment, mais on va se le dire très clairement, et ça n'échappe à personne. Mais l'enjeu a aussi été la défense.
Ouais. Alexandre Devecchio. Vous avez l'air suspicieux sur les propos.
Je rejoins ce qui a été Je suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses. Du reste, il va falloir juger Emmanuel Macron sur son bilan européen global. Et je dirais qu'Emmanuel Macron a fait un pari qui est le même pari que les précédents présidents de la République. C'est d'être gentil avec l'Allemagne, en gros, en espérant obtenir des avancées, plus de coopération. Je suis pas sûr qu'il ait réussi. Alors, il a réussi une chose. Je sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui sont sceptiques, mais qui est effectivement qui est un plan de relance commun en Europe. Mais du coup, c'est encore une fois une orientation, il faut bien le dire aux gens, qui est une orientation supranationale. C'est l'idée d'aller vers plus d'intégration européenne, peut-être d'aller vers un budget commun demain. Est-ce que les gens veulent vraiment ça? Avoir un super ministre des Finances européen? Je suis pas sûr voilà, que c'est ce qu'ils réclament et que ça apportera réellement plus de une Europe plus puissante et plus politique. Mais il y a ça, effectivement, il a obtenu un plan de relance européen piloté directement par l'Europe. On aurait pu aussi avoir, comme ça a été au départ et comme ça a été le cas en parallèle, des plans de relance dans chaque pays européen avec une action de la Banque centrale.
Vous n'êtes pas d'accord, Prisca Tavenot ?
Alors, je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement, il y a un plan de relance et je ne suis pas d'accord si chaque pays européen s'était dit de mon côté, je vais essayer de lever de l'argent sur les marchés et le faire de cette façon-là. Je ne suis pas sûre que ça aurait fonctionné de la même façon et qu'on aurait eu des pays en Europe qui auraient été complètement à la traîne ou complètement à la ramasse. Est-ce que c'est ce qu'on veut sur le continent ? Je ne suis pas sûre. Mais ça, c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Ensuite, sur le sujet du plan de relance, oui, il a été décidé au niveau de l'Union européenne. Mais par contre, les déclinaisons et la façon dont ces fonds sont utilisés au niveau national, ça dépend et ça, c'est dépend de chaque pays. Chaque pays est souverain. Et la manière dont ça a été décidé en France, c'est très simple.
Mais est-ce que c'est normal, ça, justement ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a quand même un audit, j'allais dire, de l'Union européenne derrière pour voir si cet argent est bien dépensé.
Alors, l'audit et les modalités exactes de l'audit, je ne les connais pas. Mais bien sûr, c'est regardé sur des grandes lignes démocratiques en lien avec les traités européens. Mais il est bien évident que les États restent souverains sur la déclinaison et la politique qu'ils veulent mener grâce à ces fonds européens.
On voit bien que ça va être et que c'est déjà un instrument de chantage. Je crois qu'il y a des choses, quoi, des réformes qui avaient été négociées. J'avoue que là, j'ai un trou de mémoire pour vous dire exactement lesquelles, mais on la voit avec le cas de la Pologne, où on commence à dire à la Pologne « Ah, vous ne voulez pas de ce qu'on vous impose sur la justice, etc. On va vous supprimer, vous n'aurez pas le droit au plan de relance. » Donc on voit bien qu'on est là dans une forme de chantage.
Pourquoi ça n'a rien à voir ?
Ça n'a rien à voir. Là, on parlait il y a 5 minutes,
c'est vrai.
Mais c'est pour ça, je dis il y a 5 minutes, on disait effectivement comment va être utilisé l'argent donné, l'argent acquis grâce au fonds de relance, au plan de relance, pardon. Sur la Pologne, c'est autre chose. C'est que la Pologne est en train de dire que potentiellement, ils vont sortir de l'état de droit. Et c'est en ça que l'Union européenne dit attention, vous voulez sortir de l'état de droit, donc vous sortez des traités européens. Donc si vous sortez des traités européens, il est évident que vous n'allez pas avoir accès au fonds de relance.
Le raccourci sur l'état de droit est assez rapide.
Oui, la définition de l'état de droit n'est pas.
Oui, mais l'état de droit vu à la façon européenne. Et c'est effectivement le sujet de la mainmise de l'exécutif sur la justice. Attention, je veux dire, il ne faut pas faire des raccourcis.
Par le Parlement, donc c'est encore plus compliqué.
Oui, mais c'est pour ça que je dis il faut bien regarder l'ensemble des sujets, mais ne pas faire d'amalgame. Il ne s'agit pas de dire à la Pologne, oui, vous allez avoir le plan de relance, mais on va absolument
quand vous
savoir.
Votre grosse voix comme ça.
Mais oui, mais je le fais aussi parce que voilà, je suis la seule fille autour. Non, mais même pas. Non, je ne le fais pas, je ne le ferai pas. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas de dire à la Pologne, on vous donne les fonds du plan de relance, mais on veut absolument regarder où vous allez dépenser chaque euro. Non, c'est on vous donne accès à ce plan de relance, mais bien évidemment, vous devez rester dans les lignes et le cadre des traités européens.
Amine El Khatmi.
Mais moi, je suis un peu entre les deux positions parce que
c'est le conciliateur,
c'est moi le macroniste, parce que je reste fidèle à ce que je disais tout à l'heure sur le respect de la souveraineté des États et d'autant plus l'incompréhension face à l'Union européenne que les Français vous disent la seule fois où on a été consulté, notre vote n'a pas été respecté puisque 3 ans après, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, le non au traité constitutionnel était d'une certaine manière été outrepassé par un vote du Parlement. Et en même temps, lorsqu'il y a des atteintes... alors après, le problème avec l'expression l'état de droit, c'est que la définition n'est pas très précise.
Il faut être précis sur ce qu'on reproche à la Pologne.
Non, mais par exemple, il y a eu un texte qui était assez choquant sur la liberté de la presse, vraiment, il y avait des dispositions de cette loi qui étaient très choquantes sur le contrôle du travail des journalistes, sur la question du secret des sources, discours sur voilà, l'indépendance du travail de la presse et des médias. Ça ne me choque pas, là, pour le coup, compte tenu de nos standards en la matière, que l'Union européenne puisse rappeler à l'ordre la Pologne et effectivement, y compris mettre dans la balance un certain nombre d'aides, parce que vous ne pouvez pas bénéficier des aides de l'État.
Et d'ailleurs, Varsovie a changé de position là-dessus.
Oui.
Et alors, est-ce que Barnier, puisqu'on parlait de Michel Barnier au début de cet entretien depuis 10 minutes, est-ce que Michel Barnier est le seul à faire autant parler d'Europe parce qu'il a eu ce passé européen ou j'ai pas l'impression qu'on entende beaucoup les autres.
On va entendre, à mon avis, pendant la campagne Emmanuel Macron, pour les raisons dont on vient de parler, et Michel Barnier, s'il remporte... ce vote très incertain du Congrès du 4 décembre.
Et puis on entendra Valérie Pécresse demain chez Laurence Ferrari.
C'est vrai que Michel Barnier et Emmanuel Macron, quand on voit leur structure électorale, celle passée d'Emmanuel Macron et celle qui est là en ce moment, c'est vraiment la France du oui. Quand on regarde les segments qui sont le plus, c'est-à-dire celle qui a voté plutôt oui le 29 mai 2005, un électorat plutôt âgé, issu des grandes agglomérations, issu des catégories sociales supérieures, et puis qui a un regard à la mondialisation extrêmement spécifique. En 2017, quand vous croisiez la phrase « je suis favorable à la mondialisation, je m'y retrouve », Emmanuel Macron, passé à presque 50% au premier tour, son vote.
Ouais.
Et quand on regardait les personnes qui nous disaient « non, je ne m'y retrouve pas, la mondialisation me fait peur », il était devancé par Marine Le Pen, par François Fillon, par Jean-Luc Mélenchon. Il faisait à peine mieux que Benoît Hamon. C'est vraiment, de ce point de vue-là, une vraie clé de lecture du vote. Donc, un Emmanuel Macron président de l'Europe et un Michel Barnier, s'il arrive à être fait candidat, vont, à mon avis, chercher à mobiliser en plus ces segments qui votent sans doute plus que la moyenne.
Mais la position de Michel Alexandre Barnier est vraiment pas claire, y compris sur la Pologne, puisqu'il y a peu, il expliquait... notamment qu'il voulait faire un moratoire sur l'immigration, mais également des référendums, justement, en expliquant que le droit européen était trop contraignant et qu'il fallait faire des référendums pour pouvoir s'en extraire en partie. Et là, il nous explique qu'il faut appliquer les traités, rien que les traités, sinon on doit sortir de l'Europe. Donc, lequel Michel Barnier, il faut croire, je ne sais pas.
Mais donc, ça veut dire qu'il y a une collection de masques derrière tout ça ? Et est-ce que justement, puisqu'on parle, vous parliez tout à l'heure de la porosité entre les trois droites, la fameuse droite lepéniste, la droite zemmourienne et la droite de gouvernement, est-ce que là-dessus, sur l'Europe, il y a un trend possible, un mélange
Ah non, on est vraiment, enfin je pense qu'on est sur des visions de l'Europe extrêmement différentes. Le vote Zemmour et le vote Le Pen, c'est clairement la France du non. Éric Zemmour est quand même...
Encore aujourd'hui.
Je pense assez... Alors, c'est pas un...
Ça n'a pas été très clair dans les dernières déclarations d'Éric Zemmour, en tout cas.
Oui, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il soit un fervent européen. Et quand, dans son livre Le suicide français, il lit quand même la France qui tombe à toute une série de décisions européennes qui ont...
Il y a des gens de la droite française. Du gouvernement et de la gauche du gouvernement qui partagent ce point de vue.
Mais tout à fait. C'est pour ça que le vote oui est le plus homogène aujourd'hui dans l'électorat macroniste.
Et moi, je suis persuadé que la droite de gouvernement est en train de mourir et elle est en train de mourir en grande partie parce qu'elle n'a pas résolu cette question de l'Europe, notamment au moment de la fusion entre l'UDF, qui est un parti traditionnellement très européiste, et du RPR, qui est plus eurosceptique, on se souvient
c'était
de
le mariage impossible de l'UMP,
Pasqua, qui avait voté non au traité de Maastricht, et ils n'ont jamais réussi à clarifier cette position-là, et d'ailleurs, ils ont vraiment chuté au moment des élections européennes, où Bellamy a fait 8%, je pense qu'on a beaucoup mis ça sur le dos de Bellamy, mais justement, je crois, parce qu'ils avaient une position illisible par rapport au RN, qui était clairement sous une dimension, faisait une campagne un peu souverainiste, et Emmanuel Macron, qui faisait une campagne pro-européenne.
Merci, chers amis. On se retrouve dans un quart d'heure avec vous, juste après le journal de 19h. On reparlera du souverainisme européen. On parlera également de la question de la repentance de la France. A tout de suite après le journal.